Vous êtes sur RTL.
Et le journal, avec vous Dominique Tenza, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Et à la une, le foot européen en crise, ça vous fait beaucoup réagir ce matin au 32-10. 12 des plus grands clubs du continent annoncent la création de leur propre compétition.
La Super League, concurrente directe de la Ligue des Champions, colère de l'UEFA, nous allons y revenir dès le début de ce journal avec la brigade RTL pour tout comprendre de ce bras de fer inédit. À suivre également l'incroyable opération Commando qui a permis l'enlèvement de Mia, la fillette retrouvée hier matin avec sa mère dans un squat en Suisse. La colère des policiers après le verdict en appel à Viry-Châtillon. Et puis à 3 jours de son départ dans l'espace, on s'intéressera à ce que va manger Thomas Pesquet lorsqu'il sera très loin, tout là-haut.
RTL Matin.
Ils ont donc mis leur menace à exécution. 12 riches clubs de football européens annoncent la création de leur propre ligue.
Oui, baptisée la Super League, le communiqué a été publié cette nuit. 12 clubs qui décident donc de faire bande à part et de monter leur compétition. La Ligue des Champions organisée par l'UEFA ne leur convient plus. Et ils décident donc de passer à la vitesse supérieure. On a besoin de comprendre ce matin les raisons de cette guerre ouverte et ce que signifie concrètement la création de cette Super League. Pour cela, la brigade RTL avec Nicolas Georgerot, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que ce projet, Nicolas ?
Alors, c'est une nouvelle Coupe d'Europe qui viendrait en concurrence de la Ligue des Champions organisée sous la tutelle de l'UEFA. La création d'une Super League avec 20 clubs, dont 15 seraient permanents, toujours qualifiés, et il y aurait 5 invités chaque saison. Une formule avec une phase de groupe, puis des matchs aller-retour jusqu'à la finale, rien d'extravagant. Les rencontres se joueraient les mardis, mercredis et jeudi, et elles seraient lancées dès que possible, sans doute autour de 2022-2023.
Alors pourquoi cette scission et qui est à la manœuvre ?
Eh bien les clubs européens les plus puissants, ceux qui considèrent que l'UEFA n'a pas répondu à leurs attentes ces dernières années en matière de recettes. 6 clubs anglais, dont Liverpool, les deux Manchester ou encore Arsenal, 3 clubs espagnols, Real Madrid, Barcelone, Atlético de Madrid, 3 clubs italiens, la Juventus et les 2 clubs milanais. La présidence du projet est dans les mains de Florentino Pérez, le patron du Real Madrid. Pas d'équipe française, pas d'équipe allemande. Elles ont pour l'instant refusé d'y participer. Il n'y a pas le PSG, ni l'OL, il n'y a pas le Bayern Munich, ni Dortmund. Ces équipes étaient associées au projet, mais elles ont dit non ces dernières semaines.
Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est plus d'argent ?
Ben oui, clairement, l'UEFA, avec la Ligue des Champions, redistribue aux clubs participants environ 2 milliards d'euros chaque année. Mais ces clubs, pour certains cotés en bourse, en veulent plus. Ils anticipent 2 choses. Une éventuelle baisse des droits télé et l'impact de la crise sanitaire. Et dans la Super League, eh bien, le finaliste de la compétition jouerait entre 23 et 25 matchs, alors que dans la formule actuelle, eh bien, le champion d'Europe en joue 13. Donc c'est assez simple, plus de matchs, plus de grandes affiches, plus de recettes billetterie, plus de droits télé, donc plus d'argent au final. Dans le projet, entre 4 et 6 milliards d'euros seraient garantis aux participants de la Super League.
Que peuvent faire les instances face à ce potentiel séisme maintenant ?
Alors, l'UEFA, l'Europe, marche main dans la main avec la FIFA, la Fédération Internationale, ce n'est pas toujours le cas. Les deux instances ne vont pas reconnaître cette nouvelle entité. Les menaces de sanctions n'ont pas tardé. Un projet cynique est dénoncé. Les clubs concernés seraient bannis des autres compétitions nationales et mondiales. Les joueurs qui y participeraient pourraient ne plus être présents en équipe nationale pour l'Euro ou la Coupe du Monde, par exemple.
C'est un projet crédible aujourd'hui ?
Alors clairement, c'est un cap supplémentaire de franchi avec l'annonce faite cette nuit, mais la levée de bouclier est telle de la part des instances, des fédérations, des États, d'anciennes grandes figures du foot comme Ferguson, des actions de supporters, qu'il n'est pas sûr du tout que ça aille au bout. Il reste aussi des interrogations. Quel diffuseur télé, avec quels arbitres ? En tout cas, c'est un coup de pression énorme pour forcer l'UEFA à revoir sa propre réforme de la Ligue des Champions qui doit intervenir aujourd'hui dans un comité exécutif en Suisse.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. RTL 6h, 5 minutes après 5 jours d'intenses recherches. Mia a donc été retrouvée hier par les enquêteurs en Suisse.
En compagnie de sa mère qui avait commandité son enlèvement, elles avaient trouvé refuge dans un squat, une ancienne usine désaffectée. 5 hommes ont été mis en examen dans ce dossier, soupçonnés d'être les auteurs présumés de ce rapt aux allures d'opération militaire. La fillette, elle, est en bonne santé, même si l'ampleur du traumatisme vécu est difficile à mesurer. C'est ce que vont devoir déterminer examiner à présent les autorités, Dimitri Ramelot.
Oui, dès la découverte de Mia et de sa mère dans ce squat en Suisse, une équipe de la protection judiciaire de la jeunesse est partie de France pour prendre en charge la fillette de 8 ans, François Perrin, procureur de la République de Nancy.
Elle est actuellement entendue par les services de police, donc suisse. À la suite de cette audition, elle sera remise à cette délégation de la protection judiciaire de la jeunesse, composée d'un assistant social et d'une psychologue.
Et Lola Montemaggi, immédiatement placée en garde à vue, commençait à être interrogée par les autorités suisses qui remettront à la France l'enfant et sa mère dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Et Mia sera rendue à sa grand-mère dans des conditions qui restent à déterminer. Le colonel Brice Mangou, patron de la gendarmerie dans les Vosges.
Aujourd'hui, il s'agit en effet de protéger une enfant qui est en bonne santé, on nous le dit, mais il reste à savoir comment elle a vécu toute cette histoire-là. On doit aussi protéger une grand-mère qui a été énormément sollicitée pendant toute cette semaine. Et puis, il y a toujours ce risque de cette mouvance qui pourrait faire peut-être de Mia une sorte de symbole.
Et les retrouvailles ne se feront pas chez la grand-mère aux Poulières, mais dans un endroit à l'abri des regards et des médias, la grand-mère qui a d'ailleurs quitté sa maison hier en milieu d'après-midi.
Dimitri Ramelot. À un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron choisit de parler sécurité. Le chef de l'État s'exprime longuement ce matin dans les colonnes du Figaro et promet notamment de tenir sa promesse de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Le président, qui néanmoins refuse de commenter le verdict en appel au procès de Viry-Châtillon, cette tentative de meurtre sur des policiers brûlés au cocktail Molotov en 2016. En première instance, 8 des accusés avaient été reconnus coupables, 5 acquittés. Il y a eu cette fois 8 acquittements prononcés et les peines de prison ont été réduites. Une nouvelle décision jugée incompréhensible et choquante pour Aurélie Laroussi. Elle préside l'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère.
La justice renvoie encore une fois, un message de totale impunité. Toute cette délinquance-là, tous ces gens-là qui s'en prennent à la police, quoi, encore une fois, c'est montré que bon, aujourd'hui, vouloir crever du flic, ça coûte pas cher en France. Là, on passe à 8 acquittements, donc c'est juste honteux. Et puis des peines de 3, 6 et 8 ans, non, on les comprend pas. Comment on peut prendre de telles décisions? Comment un juré peut prendre de telles décisions? Enfin non, c'est honteux.
Un propos recueilli par Vincent Serrano.
Allez, dans un instant sur RTL, cas contact.
RTL Matin, Julien Cellier.
Allez, RTL, 6h10, c'est l'histoire d'une étudiante en médecine qui ne voulait surtout pas perdre une année de plus.
Et pour cela, Léa était prête à tout, y compris à passer son examen alors qu'elle est cas contact, censée rester donc à l'isolement. Le problème, c'est qu'à la faculté d'Aix-Marseille, où le concours pour la deuxième année démarre ce lundi, il n'y a aucun plan B. C'est soit ça, soit la fin des études, le redoublement n'existe plus. Clairement, le choix était vite fait, Hugo Hamelin.
Oui, après une année universitaire cabossée, hors de question aujourd'hui pour Léa d'abandonner l'ambition de devenir médecin. Même si elle est cas contact, elle va tout de même se présenter au concours ce matin, aux côtés de 1600 étudiants.
Donc en fait, on va le passer en étant un risque pour d'autres personnes, et on va travailler toute une année, c'est notre seule chance. Et là, en fait, on est un peu en train de nous la gâcher parce qu'il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est organisé. C'est pas le début de la crise, ça fait un an qu'on est dedans. Enfin, moi, je trouve ça inadmissible et c'est honteux, en fait, c'est honteux.
Redoublement interdit, les syndicats étudiants demande donc exceptionnellement que ceux touchés par le Covid puissent repasser les concours l'année prochaine. La maman de Léa, elle, n'aura pas cette patience.
La seule chose qu'on a à faire, c'est d'y aller coûte que coûte. Autrement, on perd notre unique chance.
Selon le nombre d'absents, plusieurs dizaines, plusieurs centaines, le ministère de l'Enseignement supérieur va trancher dans les semaines qui viennent, permettre ou non le redoublement exceptionnel de ces étudiants prêts à prendre tous les risques après avoir été malmenés par la crise sanitaire.
Hugo Hamelin, l'Europe pourrait ne pas renouveler son contrat avec AstraZeneca en raison notamment du retard de livraison, mais aussi de l'impopularité du vaccin. Parfois, des gens décident de quitter la file d'attente au moment d'apprendre que l'injection se fera avec le vaccin anglais. À Nice, à Douai par exemple, les vaccinodromes sont restés fermés ce week-end.
Plus que quelques jours avant le nouveau grand départ de Thomas Pesquet.
L'astronaute s'envolera jeudi depuis la Floride à bord de SpaceX pour sa deuxième mission sur la Station Spatiale Internationale. Et si la France lui manque un peu, eh bien il pourra toujours se consoler grâce à de bons petits plats concoctés par le chef français Thierry Marx. Des menus réservés pour les grandes occasions et qui répondent forcément à des exigences bien particulières, Sophie Jousselin.
La gastronomie française, faite de produits du terroir français. Si on veut qu'elle parte des États-Unis dans une fusée, il faut qu'elle traverse des frontières. Et...
Alors, c'est pas le bon son, Sophie Jousselin.
Ça, c'est la magie du direct. Il y a une petite erreur.
Non.
Bon, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que nous, on a pu les goûter dans le plat du jour avec le gastronome à bicyclette il y a quelques semaines.
C'est
plat.
C'est super bon.
Bah, voilà, on peut répondre à la place de Sophie Jousselin. C'est très bon.
Et Thierry Marx,
c'est quoi? Bœuf bourguignon, petite épeautre à la truffe.
Sans miettes, apparemment. Thierry Marx expliquait qu'il fallait pas de miettes parce que, justement, il fallait pas que ça s'envole. vol dans la station spatiale, ni de sauce trop liquide, les sauces bien visqueuses. Voilà, on vous a résumé en gros ce qu'allait manger Thomas Pesquet. Ouais. Je crois que c'était un écrasé de pommes de terre avec un bœuf.
On a vu la crêpe Suzette, je crois.
On a vu la crêpe Suzette et ça avait vraiment le goût de crêpe Suzette.
Ça donne envie d'aller dans l'espace.
Et tout ça dans des petits sacs qui ressemblent aux compotes de fruits qu'on peut avaler pour les enfants. Là. Voilà, c'était délicieux. Bref, voilà. On parle football maintenant.
Avec un sprint final décidément passionnant en Ligue 1, on reparle football. Lille, Paris, Monaco, Lyon, les quatre équipes se tiennent en 3 points en haut du tableau. Hier, le PSG l'a emporté 3-2 face à Saint-Etienne. Monaco est allé gagner à Bordeaux 3-0. Et Lyon a battu Nantes 2-1. Lille, le leader, avait fait match nul vendredi un partout face à Montpellier, ce qui a permis à ses dauphins de se rapprocher. Il reste 5 journées à jouer.
Les courses à Saint-Cloud ?
Avec les pronostics de Dominique Cordier, attention, le 3 est non partant. Dominique vous conseille le 5, le 12, le 10, le 13, l'As, le 8 et le 7. La dernière minute, c'est le 10. Papois, la course du Quintet à suivre sur 6play.
Merci.